Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers amis de présence, de radioprésence, de qui nous fait nous être présents les uns aux autres, et dans la parole de Dieu que nous commentons en particulier dans ce cycle concernant les deux livres de Samuel. Et nous en étions restés la dernière fois, lors de la dernière rencontre en présence des uns des autres par la radio, nous en étions restés au meurtre par Joab, qui était le général de la tribu qui était avec David, et le meurtre de Abner, qui était général des dix autres tribus qui voulaient être fidèles à Saül, mais qui n'a pas été possible. Parce que le successeur, le fils de Saül n'était pas à la hauteur. Mais quand il apprend ce meurtre de Abner, le général du Nord, par Joab, le général du Sud, David est atterré. Il n'a pas voulu de tout ce sang qui commence à le cerner. Et les cadets de Gabaon, Azaël, Abner, et bientôt ce sera Ishbaal qui va être tué aussi, le fils de Saül. Pour bien montrer qu'il se désolidarise du crime de Joab, il va jusqu'à maudire durement ce dernier et toute sa famille. « Moi et mon royaume, atteste-t-il, nous sommes pour toujours innocents devant le Seigneur du sang d'Abner, fils de Ner, qu'il retombe sur la tête de Joab et de toute sa famille, qu'il ne cesse d'y avoir dans la maison de Joab des gens atteints d'écoulement ou de lèpre, des hommes bons à tenir le fuseau, ou qui tombent sous l'épée, ou qui manquent de pain. » David n'y va pas de main morte, d'autant plus qu'il ne sévira pas personnellement contre le meurtrier, et Joab, et Abishaï, son frère, et complice. Sans doute ne veut-il pas encore ajouter au sang en versant celui de ses autres neveux. En outre, il a encore besoin du farouche Joab, même si ses façons le heurtent profondément. Il laissera la vengeance à Dieu. « Pour moi, déclare-t-il, je suis faible maintenant, tout roi que je suis par l'onction, et ces hommes, les fils de Seruya, sa propre sœur donc, sont plus violents que moi. Que le Seigneur rende aux méchants selon sa méchanceté. » David n'est pas un de ces efféminés que sa malédiction souhaite à la descendance de Joab. Il est plus habile à manier le fuseau que l'épée. Il n'a pas peur de se battre, comme il l'a montré dans son combat héroïque avec Goliath et dans ses victoires signalées contre les Philistins, ou encore dans ses expéditions de pillage lors de son existence de proscrit, nous l'avons vu. Guerrier zélé, David reste droit et ne peut admettre le meurtre prémédité. Notons qu'il le commettra bientôt quand même, ce par amour d'une femme. En tout cas, en la conjoncture délicate de la réunion d'Israël et de Juda, l'unité donc, il importe souverainement qu'il manifeste la réprobation d'un crime qu'il n'a pas voulu, ni même permis. À cet effet, il exige de Joab, le meurtrier donc, comme de lui-même et de toute la cour, les signes les plus visibles du deuil. Déchirez vos vêtements et mettez des sacs. La tradition. Lors des funérailles d'Abner, le roi marche derrière la dépouille et se lamente à grands cris. Il ne s'agit pas d'un accablement politique. La peine du roi est réelle, comme fut authentique son deuil de Saül et de Jonathan. Il s'exprime aussi par une de ces complaintes dont le cœur du sitariste royal et loyal avait le secret. Celle-ci, telle au moins qu'elle nous a été transmise, est succincte par rapport à celle de la complainte de l'arc, vous vous souvenez. Voici le texte, quelques versets. « Abner devait-il mourir comme meurt l'insensé? Tes mains n'étaient pas liées? Tes pieds n'étaient pas mis au fer, tu es tombé comme on tombe devant les malfaiteurs. » Le général de Saül était un homme noble et droit. Il ne méritait pas cette mort injuste par traîtrise. Et le roi va jusqu'à dire, « Ne savez-vous pas qu'un prince et un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ?» Nous retrouvons ici toute la noblesse et la droiture de David lui-même. Il va jusqu'à vouloir poursuivre son jeûne de deuil jusqu'à la fin du jour. Tout le peuple remarqua cela, note le chroniqueur, et le trouva bien. Ce jour-là, tout le peuple et tout Israël comprirent que le roi n'était pour rien dans la mort d'Abner, fils de Ner. Il a su, par grandeur et finesse d'âme, tourner en sa faveur un événement tragique qui aurait pu relancer la guerre entre Israël et Juda. Un autre meurtre, malheureusement, ensanglante la difficulté de monter du royaume vers l'unité. Après son général, Abner, donc Ishbaal, le fils du roi et donc le succès qui aurait dû être le successeur, Ishbaal est lâchement assassiné. Voyant le vent tourner, deux frères, chefs de bande du roi d'Israël, dont la qualité de benjaminite, la tribu de Benjamin, aurait dû assurer la loyauté envers le fils de Saül, qui était de la tribu de Benjamin, préméditèrent froidement de le supprimer et de s'attirer de la sorte, pensait-il, la faveur de David. Ishbaal disparut, et Saül n'a plus de descendance capable de lui succéder. Et Jonathan, l'ami de David, nous en souvenons bien, avait un fils, mais dans la fuite précipitée où l'emporte sa nourrice après la mort de son père, il tombe et s'estropie. Et Mephibaal, son nom signifie de la bouche de Baal, comme pour Ishbaal, il est transformé en Mephibosheth par décision. En outre, il est parfois changé en Méribaal, trop jeune et perclus des deux pieds, donc il ne peut en aucune façon être un prétendant sérieux au trône, le fils de Jonathan. Nous verrons plus tard que David n'oubliera pas sa promesse à Jonathan, son ami, et qui était la suivante, nous l'avons entendu au naguère, « Jure-moi par le Seigneur que tu ne supprimeras pas ma postérité après moi et que tu ne feras pas disparaître mon nom de ma famille. » Nous continuerons la prochaine fois, mes chers amis, et cette histoire un peu sanglante, nous la terminerons.